C'est maintenant le temps de retrouver la directrice des programmes chez Vélo-Québec, Magali Bebron. Bonjour Magali.
Bonjour David.
Alors aujourd'hui, tu viens nous renseigner sur le sujet des plaques d'immatriculation pour les vélos.
C'est cela. Ma chronique d'aujourd'hui s'intitule « Une immatriculation pour les cyclistes, mais qu'est-ce qu'on attend pour appliquer le principe de l'utilisateur-payeur sur nos routes? » Généralement, la question de l'immatriculation pour les cyclistes surgit au détour d'un débat enflammé suivant l'annonce d'investissements dans le réseau cyclable ou de façon tout aussi prévisible lorsqu'on lance une campagne de sensibilisation pour demander aux automobilistes de, s'il vous plaît, faire attention en ouvrant leurs portières de ne pas tuer de cyclistes. Oui, oui, toute initiative visant à mieux partager la route entre automobilistes et cyclistes semble inévitablement se heurter à l'espèce de point Godwin de l'immatriculation des cyclistes. La logique, le sous-texte, quand la discussion dérape comme ça, c'est que les cyclistes sont en quelque sorte des parasites qui bénéficient d'infrastructures et de services gratuits, alors que le réseau routier, les rues, tout ça, ben c'est payé par les automobilistes. La preuve, les automobilistes payent une taxe de 19 sous sur chaque litre de carburant acheté, ils payent pour leur permis de conduire, ils payent pour leur immatriculation, et à même cette immatriculation, dans les régions aux alentours des plus grandes villes, ils payent même une contribution pour le transport en commun de 30 $, qui monte à 75 $ pour l'île de Montréal. Or donc, un article paru la semaine dernière dans la presse nous apprenait que le fonds des réseaux de transport terrestre, de son petit nom le FOR, est de plus en plus déficitaire. En 2019, c'était à hauteur d'un petit 180 millions, mais en 2020, on était déjà rendu à 1,8 milliard quand même.
Oh, ça l'a augmenté.
1,8 milliard de dollars qui viennent des impôts que nous payons tous et toutes, peu importe notre moyen de transport. Mm-hmm. Et c'est pas prêt de s'arrêter. Pourquoi ? Parce que les dépenses liées au réseau routier ne cessent d'augmenter. On le sait, hein, nos routes sont en mauvais état, alors que les revenus, eux, sont en baisse. Les 19 sous par litre d'essence dont je parlais il y a un instant, ils ne sont pas indexés. C'est le même montant depuis des années. Et en plus, avec l'électrification croissante des véhicules, il se vend de moins en moins de carburant. Donc, les coffres de l'État ne se remplissent plus assez vite. Le gouvernement a d'ailleurs lancé un chantier dans le cadre de la politique de mobilité durable pour justement réfléchir au financement futur du réseau routier. Mais bizarrement, ou pas, on n'en a pas trop entendu parler avant les dernières élections. En campagne, on nous a plutôt rassurés sur le fait qu'on n'ajouterait surtout pas de taxes supplémentaires.
Ouais.
Des études sont pourtant commandées par le ministère des Transports précisément sur ce sujet. L'avenir du financement, est-ce qu'il passe par des péages, par une taxe kilométrique, par une hausse des immatriculations ou de la taxe sur l'essence? Une chose est claire, c'est qu'il va falloir trouver une façon de continuer à entretenir notre réseau routier qui est en piteux état.
Mais là, juste pour comprendre, d'après toi, est-ce que justement les automobilistes qui pensent que les cyclistes devraient aussi payer leur part, ils ont raison ou non?
Ben, pas vraiment. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le réseau cyclable, il se trouve en majorité sur les réseaux municipaux et il est donc financé en grande partie par les municipalités. Or, les municipalités, elles se financent comment ? Par les taxes foncières que nous payons tous et toutes, encore une fois, indépendamment du mode de transport que nous utilisons. Donc, dans une ville comme Montréal, où environ un tiers des ménages ne possèdent pas d'auto, ça veut un peu dire que ces sans-auto payent pour un réseau routier qu'ils utilisent proportionnellement bien peu.
Okay.
Il y a un chiffre qui est fascinant et qui a été calculé par Polytechnique Montréal, c'est la part de l'espace de voirie, ou de rue, là, si on préfère, qui est dédié aux différents modes de transport. À l'échelle de la ville de Montréal, c'est pas loin de 74 % de l'espace qui est dédié aux voitures.
Quasiment le trois quarts. Là.
C'est ça. Les piétons, un peu moins de 19 %. Le transport en commun, 1 %. Et les cyclistes, un gros 1,3 %. Alors, on va se le dire, s'il y a de la congestion à Montréal, c'est certainement pas parce que les cyclistes prennent trop de place dans les rues. Et si nos finances publiques vont mal, c'est pas non plus parce que les cyclistes ne payent pas leur part. Une étude qui nous vient de Vancouver s'est d'ailleurs attardée à chiffrer ce que coûtaient nos modes de transport à la société. Elle révèle que lorsqu'un cycliste dépense 1 $ pour se déplacer, il en coûte 8 sous à la société. Mais lorsqu'un automobiliste dépense 1 $ pour se déplacer, ça coûte plutôt 9,20 $ à la société.
Un bon écart.
Un bon écart. Alors, bien entendu, tu sais, les automobilistes ont le sentiment de payer beaucoup. Après tout, CAA estime que le coût moyen de possession d'une auto, c'est de l'ordre de 11 000 $ par année. Mais non seulement c'est une source d'appauvrissement individuel, ce que nous dit cette étude, c'est que c'est aussi une énorme source d'appauvrissement collectif. Un autre exemple de ça, c'est le prix du stationnement auto. Sur les 500 000 places de stationnement que compte l'île de Montréal, seulement 4 % sont tarifées, selon ce que j'ai appris la semaine dernière dans un panel de l'Agence de mobilité durable sur le sujet.
4 % sur 5 000 places.
500 000, pardon. Exactement. Alors, à Montréal, une vignette de stationnement pour résidents, ça coûte quelque part entre 11 et 50 à Anjou et 250 pièces dans Ville-Marie, quand elle n'est pas carrément gratuite, comme à Pierrefonds-Roxboro. Alors qu'on estime que l'entretien de la place de stationnement coûte quelque part entre 800 et 1300 $ par an, et ça, c'est sans coûter le prix du terrain sur lequel on est, auquel cas on est plus aux alentours de 2000 $ par an. Donc, le manque à gagner, là, entre le 2000 $ puis le 250 maximum que tu payes pour ta vignette, c'est payé par qui, on pense, hein? Ben, par l'ensemble des citoyens, dont ceux qui n'ont pas d'auto, dont les cyclistes.
Mais là, justement, est-ce qu'on peut avancer que l'idée juste d'immatriculer les vélos n'est pas vraiment logique ou comment on voit ça?
Ben, en fait, c'est complètement farfelu. D'abord parce que la plupart des cyclistes adultes payent déjà pour un permis et bien souvent une immatriculation. Ensuite, parce qu'il faut se rappeler qu'une part non négligeable des sommes, des permis et des immatriculations, c'est une contribution d'assurance qui permet de dédommager les victimes de la route blessées dans des collisions si et seulement si un véhicule moteur est impliqué. Je rappelle qu'à l'heure actuelle, là, si un cycliste ou un piéton se blesse sans auto, ils ne sont pas dédommagés par la SAQ.
Personne qui couvre ça.
Donc, parfois, je m'imagine ce que ça coûterait si on se mettait à exiger un permis de conduire pour les cyclistes sur la base, justement, du risque qu'ils représentent pour les autres usagers de la route. J'essaie de trouver la bonne façon de calculer ça, c'est pas évident, là, mais j'ai décidé de me baser sur la force cinétique. C'est fonction de la masse et de la vitesse au carré du véhicule. Pour faire simple, c'est en quelque sorte ce qui va déterminer la violence d'un choc en cas de collision. Okay. Alors, je fais mes petits calculs. Entre un vélo de 20 kg qui circule à 30 km/h, puis là, je suis généreuse, hein, c'est pas tout le monde qui a les jambes pour faire ça, et un véhicule de 2 tonnes qui circule à 50 km/h, puis là aussi, je suis plutôt généreuse parce que je parle pas de la vitesse sur les autoroutes, ben, la violence du choc, elle est 35 fois supérieure. Alors, si j'applique ce facteur-là au prix du permis de conduire, environ 87 pièces, ça veut dire que les cyclistes devraient payer environ 2,50 $ par année pour payer leur juste part. Mm-hmm. Et là, tu vois...
les guillemets qu'on voit, mais qu'on n'entend pas.
Exactement. Donc, autant dire que si on se lançait dans cette aventure, les frais pour gérer tout ce système coûteraient pas mal plus cher que ce que ça rapporterait. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le système d'immatriculation pour vélo qui a existé par le passé a été abandonné. Il coûtait vraiment trop cher. Depuis, l'eau a coulé sous les ponts, nos systèmes informatiques se sont améliorés, mais surtout, on comprend beaucoup mieux aujourd'hui les impacts des différents modes de transport et leurs externalités négatives, comme on les appelle. On sait qu'une société qui favorise trop l'auto-solo en paye le prix en termes de santé, environnement, congestion, usure prématurée des routes, et j'en passe. C'est pas pour rien qu'on s'est tourné vers l'éco-fiscalité pour tenter d'encourager les comportements vertueux par des subventions, par exemple pour les autos électriques, et en appliquant des tarifs et des taxes pour les comportements qu'on veut décourager, comme rouler tout seul dans son auto. Dans cette équation des comportements à encourager ou décourager, on le sait, le vélo est absolument à encourager parce qu'il nous garde en santé, il prend moins de place, il a une empreinte beaucoup plus légère dans nos milieux.
On a même vu qu'il coûtait très peu cher à la société.
Exactement. Alors, la prochaine fois que quelqu'un vous dit que les cyclistes, ces maudits parasites, devraient payer une immatriculation pour avoir le droit d'utiliser la route, rappelez-leur ceci. Les cyclistes payent plus que leur juste part pour le réseau municipal qu'ils utilisent avec grande parcimonie. Et s'il fallait vraiment appliquer le principe de l'utilisateur-payeur, ce ne sont pas les propriétaires d'auto qui en sortiraient gagnants.
Donc le mot est passé. Magali Balbrun, directrice des programmes chez Vélo Québec, merci beaucoup pour ton passage.
Merci.